RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Laurette Duranel.
Bonsoir à tous et à toutes. À la une ce soir, le déficit public bien au-delà des prévisions du gouvernement. La Cour des comptes parle de dérapage. Les collectivités territoriales, elles, ne veulent pas payer les erreurs de l'État. On entendra la secrétaire générale de l'AMF. L'actualité, c'est aussi la visite d'Emmanuel Macron qui va commencer au Brésil. Une visite pleine d'enjeux pour Paris et Brasilia. On y revient dans ce journal. Et dans notre dossier du soir, Baptiste Madinier vous racontera l'histoire de Julie Victoire Daubier, la première femme à avoir obtenu le baccalauréat en France. Il était attendu, le verdict est tombé ce matin. Le déficit public de la France s'élevait à 5,5% du PIB en 2023, bien plus que les 4,9% visés initialement par le gouvernement. Pour combler ce déficit qui représente pas moins de 15,8 milliards d'euros, l'État va devoir annoncer de nouvelles coupes budgétaires après celles actées mi-février. Tout ne peut pas reposer sur les dépenses de l'État, a prévenu ce matin Bruno Le Maire sur RTL. Cet effort sera notamment porté par les collectivités locales, a-t-il dit sans plus de précision. Une perspective qui ne réjouit pas du tout Muriel Fabre. Elle est secrétaire générale de l'Association des maires de France.
On lève aujourd'hui le contexte financier et les difficultés financières des collectivités de manière large depuis longtemps parce que on a aujourd'hui des dépenses de fonctionnement en augmentation, nos recettes qui stagnent et ce qui nous empêche en fait d'avoir une capacité d'investissement. Or, nous sommes un véritable moteur en investissement et en matière économique dans ce cadre-là. 70% des investissements sont réalisés aujourd'hui par les collectivités. Donc, il faut qu'on puisse continuer à agir et que l'on arrête, entre guillemets, de nous soumettre à des contractualisations, à des réductions de dépenses dans lesquelles, en fait, on n'a pas forcément, nous, de levier non plus. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on soit un peu plus autonome déjà en la matière. C'est ce qu'on prône depuis longtemps. Mais qu'on ne soit pas tout le temps tributaire, entre guillemets, d'une gestion du budget de l'État.
Le premier président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici, a regretté, je cite, un dérapage important et très très rare du déficit. L'opposition, elle, pointe l'échec du gouvernement et refuse toute hausse d'impôts. Nous sommes dans un moment franco-brésilien, les mots de l'Élysée pour qualifier la visite d'Emmanuel Macron au Brésil. Le chef de l'État doit y passer 3 jours. C'est sa première visite en Amérique latine depuis sa première élection en 2017. L'occasion de renouer les relations avec Brasilia refroidie après le passage du président d'extrême droite Jair Bolsonaro. Au-delà de ça, Emmanuel Macron en profitera pour faire passer d'autres messages, comme l'explique Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et auteur de géopolitique de l'Amérique latine.
Ce qui permet au président français à la fois de montrer son positionnement envers les pays du Sud d'une manière générale, qui permet à Macron de pouvoir montrer qu'il souhaite être un interlocuteur pour un des pays fondateurs des BRICS, et puis aussi montrer qu'il a une certaine aisance et de bonnes relations avec un dirigeant de classe mondiale qui incarne un peu la gauche au niveau international, et puis aussi de pouvoir évoquer probablement un certain nombre de sujets qui seront très épineux pour certains dans la relation France-Brésil. Les intérêts français sont très importants dans ce pays en termes de présence de nos entreprises, de financement, d'investissement direct français sont très importants au Brésil. C'est le pays vers lequel les investissements directs français sont les plus importants en Amérique latine, mais d'une manière plus générale dans les pays du Sud. Donc il y a toute une série de choses comme ça qui vont être discutées.
Au programme des discussions, des sujets de convergence entre les deux présidents, à savoir la biodiversité et la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi des sujets de divergence, notamment sur la guerre en Ukraine ou celle dans la bande de Gaza, ou encore sur le Mercosur qui avait suscité une levée de boucliers par les agriculteurs en France. Dans le reste de l'actualité internationale, un rapport choc commandé par le Conseil des droits de l'homme accuse Israël d'avoir commis plusieurs actes de génocide dans la bande de Gaza. C'est la rapporteuse spéciale des Nations Unies pour les territoires palestiniens qui a fait ses conclusions après plusieurs entretiens avec des experts et des civils et à partir de données d'organisations présentes dans l'enclave. Pendant ce temps, le Hamas demande l'arrêt du largage d'aide humanitaire après la mort de 18 personnes. 6 d'entre elles sont mortes dans des bousculades, les 12 autres noyées en mer alors qu'elles tentaient de récupérer de la nourriture parachutée au large de l'enclave. Aux États-Unis, le pont de Baltimore sur la côte Est, un important pont autoroutier, s'est effondré tôt ce matin après avoir été percuté par un navire. Plusieurs véhicules et une vingtaine de personnes sont tombées dans l'eau. Les secours sont toujours à la recherche de plusieurs victimes. Un héros de la résistance s'est éteint ce mardi. Claude Alfandéry est mort à l'âge de 101 ans. Ancien officier des forces françaises libres, ce militant communiste devenu haut fonctionnaire était aussi un économiste engagé. Il avait notamment fondé le réseau de finances solidaires France Active. Prudence enfin si vous vous trouvez dans la Loire, la Haute-Loire ou l'Isère. Ces trois départements sont placés en vigilance orange pour des risques de fortes chutes de neige et de verglas. L'alerte doit démarrer à minuit ce soir et devrait durer jusqu'à 9h demain matin. On parle de baccalauréat ce soir dans le dossier de la rédaction, mais de baccalauréat au féminin. Et c'est avec vous, Baptiste Madinier, bonsoir.
Bonsoir Laurette, bonsoir à toutes et à tous. Oui, on se penche sur le cas et l'histoire de Julie Victoire Daubier ce soir, la première femme de l'histoire de France à avoir obtenu le bac. Nous sommes alors en 1861. Elle pousse également les portes de l'université de la Sorbonne pour devenir la première femme licenciée de lettres en 1871.
Ok Baptiste, mais pourquoi on en parle maintenant ?
Eh bien, parce qu'on célèbre aujourd'hui, jour pour jour, le bicentenaire de sa naissance dans les Vosges. La Poste vient d'éditer un timbre à son effigie. Et cette année a également été désignée comme année de commémoration nationale pour cette pionnière méconnue de l'émancipation des femmes. Le tout sous le haut patronage du Premier ministre.
Alors, replongeons dans l'époque, Baptiste. C'était alors vraiment compliqué pour une femme d'avoir le bac ?
Eh bien, nous sommes sous le Second Empire, celui de Napoléon III. Le bac existe à peine depuis un demi-siècle sous sa forme moderne. La suite est racontée par Amélie Puch, post-doctorante à l'Institut des Humanités en Médecine. Elle a consacré sa thèse justement aux femmes à la conquête de l'université.
Le baccalauréat, c'est une infime proportion de la population masculine qui le passe. C'est réservé aux garçons qui peuvent se payer le lycée, donc le lycée mis en place par Napoléon. À partir de 6 ans, on commence à apprendre le latin, puisqu'à l'époque, le baccalauréat repose beaucoup sur les auteurs grecs et latins, puisqu'en fait, on estime que pour être un homme accompli, un homme qui raisonne, donc un homme supérieur, il faut avoir fait des humanités. Dans ce contexte, il n'y a pas de lycée pour les filles. L'enseignement secondaire au féminin n'existe pas. Les filles, elles ont le droit à un enseignement éventuellement primaire, apprendre à coudre, un peu apprendre à compter et éventuellement apprendre à lire et à écrire. Les filles, elles sont principalement scolarisées aussi par les religieuses. Et puis, les religieuses, vraiment, leur but principal, c'est de faire des bonnes chrétiennes et non pas des femmes qui sachent lire et écrire.
Alors, dans ce contexte, comment fait Julie Victoire Daubier pour passer le bac avec succès ?
D'abord, il faut surmonter pour elle l'absence d'enseignement en latin et en grec pour les filles. Elle va profiter ainsi d'avoir des frères. C'est ce que nous raconte sa biographe, Véronique André-Duru.
Elle ne va pas au lycée. Et les filles n'ont pas de classe où on donne accès à l'enseignement du latin et du grec. Donc, la plupart des premières bachelières sont souvent les filles, petites dernières dans une famille où il y a des garçons et qui assistent au cours particulier de leurs frères, ce qui a été son cas. Les frères avaient des cours de latin et de grec à domicile, dont elle a profité. Elle avait en plus dans sa fratrie un frère qui était son parrain, qui était prêtre et qui avait un très très bon niveau de latin. Et je pense que ça l'a aidé à passer le bac. D'ailleurs, elle a de bonnes notes en latin et en grec au bac. Elle a enseigné le programme des lycées à des enfants dans des familles plutôt aisées. Ça lui a permis de continuer et elle-même de se former. Donc, elle préparait les enfants avec les programmes du bac, dont les enfants dans la famille du gouverneur de la Banque de France et autres, quoi. Donc, à un niveau assez top, quoi.
Julie Victoire Daubier devient donc préceptrice et femme de lettres également. Elle tente de s'inscrire au bac à Paris puis à Aix, mais se heurte à des refus. Et ce qui va vraiment lui ouvrir les portes du bac, c'est un concours qu'elle remporte à Lyon. Elle l'obtient le bac en 1861, mention passable. C'est relaté à travers la presse dans toute la France. Elle écrit ensuite « Je ne serai trop remerciée, ma patrie et mon siècle ».
Et Baptiste, elle ne s'arrête pas là ?
Non, elle part à l'assaut ensuite de l'université. Et pas n'importe laquelle, la plus ancienne, la Sorbonne, Véronique André-Duru.
Elle ne s'arrête pas là parce qu'il y a un, ouvrir l'université aux filles, donc le baccalauréat est la clé. La deuxième chose, c'est de faire bouger des universités anciennes et vieillissantes comme la Sorbonne, qui sont vraiment blindées d'a priori, de tradition, etc. Et c'est pour ça qu'elle prépare sa licence. Mais bon, elle n'a pas le droit d'assister aux cours en Sorbonne. Par contre, le ministre lui est tout à fait favorable, le secrétaire du ministre l'est. Donc, elle est inscrite à la licence. Et quand elle l'obtient, elle a son diplôme de Sorbonne avec sieur rayé sur le diplôme et le ministre a écrit mademoiselle à la place.
Là encore, pour bien prendre la mesure de ce parcours de Julie-Victoire Daubier, il faut se replonger dans le contexte de l'époque avec Amélie Puch.
Là où Julie-Victoire Daubier intervient et change un peu les choses, c'est qu'elles sont admises à entrer à l'université, mais à Paris, à la Sorbonne, elles n'ont pas le droit d'assister aux cours. Elles ont le droit en province, elles ont le droit au Collège de France, elles n'ont pas le droit à la Sorbonne. Le doyen, il va conseiller à Julie-Victoire Daubier et à ses 4-5 acolytes qui sont déjà inscrits dans l'être de faire une pétition. Cette pétition sera rédigée par Julie-Victoire Daubier en 1872. Il va y avoir une enquête du ministère, du coup, pour savoir si oui ou non les femmes sont gênantes dans les amphithéâtres. Et on va conclure qu'elles ne le sont pas. Et donc, à partir de là, de cette nouvelle bataille de Julie-Victoire, les femmes vont pouvoir assister aux cours à équivalent des hommes, en fait.
Donc, le combat est gagné à ce moment-là, Baptiste.
Alors, pas encore, car les femmes peuvent s'inscrire au bac ou à l'université, mais pour être reçues, encore faut-il avoir les connaissances de base, notamment en grec et en latin. Et ça, ça va encore être un combat qui va prendre un demi-siècle de plus.
Il faut savoir que le secondaire sera créé bien après Julie-Victoire et les premières bachelières, les premières députées. Puisque c'est par la loi C qui est créé un secondaire féminin en 1880. Et donc, il va y avoir la création de lycées de jeunes filles en 1880. Mais lycées qui ne doivent jamais mener vers le baccalauréat, et ça c'est écrit dans la loi, on ne veut pas faire des bachelières. Surtout pas, on veut faire des épouses et des futures mères de républicains. Il faut apprendre les valeurs de la République par le lycée, mais il ne faut pas faire des femmes savantes. Donc, surtout, on n'a pas de latin, on n'a pas de sciences et on n'a pas de philosophie. Donc, normalement, sans ces matières-là, on ne doit pas pouvoir réussir à avoir son baccalauréat. Donc vous imaginez à quel point c'était difficile pour les femmes, jusqu'à ce que, en 1924, le décret Vera impose les mêmes programmes dans les lycées de filles et dans les lycées de garçons, d'obtenir le baccalauréat en n'ayant pas les bases qu'avaient les garçons.
Voilà, il faut comprendre que Julie-Victoire Daubier mène ce combat en ayant bien conscience de la cause qu'elle porte. Elle ne le fait pas seulement par émancipation personnelle, mais bien pour celle de toutes les femmes. On lui prête d'ailleurs ces mots, « La femme deviendra dans la société tout ce qu'elle sera capable d'être ».
Merci Baptiste et merci à Nicolas Fournel qui était à la technique ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée à l'écoute de RCF.